Au sommaire cette semaine, une autre inadaptation au progrès, le cas de la Disque, des nouvelles de la course à la chefferie du Parti québécois, et on fera un point sur l'inaction gouvernementale de Justin Trudeau. Bienvenue à ce 13e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez pu profiter de cette fin de semaine qui, pour moi, est parfaite. Presque parfaite. Ceux qui me connaissent le savent déjà, mais quand températures commencent à fléchir, à devenir un peu plus fraîches comme ça, ciel bleu, soleil, c'est sans aucun doute une de mes saisons préférées, celle qui commence. C'est sûr, ceux qui tripent sur l'été vont trouver ça plate de voir jaunir doucement les feuilles sur les arbres, de voir commencer à penser à fermer la piscine, puis à serrer les meubles de patio. Mais que voulez-vous, nous sommes au Québec. Mais avant de parler d'hiver, avant d'avoir peur de la première tempête, il y a encore de belles périodes devant nous pour en profiter. L'Action de grâce, Halloween, et puis oui, c'est sûr, il y a des bouts un peu plus poches comme les pluies de novembre, mais nous n'en sommes pas là. Donc j'espère que vous avez profité de la fin de semaine. Pour le reste, vous l'avez vu au sommaire, pas mal de politique, politique provinciale, politique fédérale. Puis si je ne suis pas trop bavard, on va pouvoir parler d'un peu d'autre chose à la fin du podcast. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau et je vous souhaite la bienvenue à ce 13e numéro du Radioblog de Québec Presse. Je ne sais pas trop ce qui est en train de se passer en ce moment, mais on a eu l'occasion depuis plusieurs semaines de parler de problèmes dans certaines industries, des industries qui ont du mal à se réformer, à s'adapter au changement. C'est plutôt curieux, mais on a parlé évidemment du débat taxi contre Uber, on a parlé aussi de Post Canada, des services qui, dans le fond, existent depuis des décennies, puis même plus que ça, si on parle de Post Canada, qui, dans le fond, voient arriver le train du progrès et se disent « Non, non, ça peut pas arriver. Non, non, ça peut pas arriver. Ils ont encore besoin de moi. Non, non, ça peut pas arriver. » Et tout d'un coup, quand ils réagissent, ben, c'est déjà trop tard. C'est un peu la même chose qui est en train de se passer avec la musique. Pourtant, quand on y pense bien, la musique a vécu beaucoup de bouleversements ces dernières décennies. On est passé du vinyle, qui était roi et maître dans l'industrie musicale, à d'autres supports magnétiques comme les cassettes, les micro-cassettes ou les 8 pistes. Puis ensuite, on est allé vers le numérique avec l'arrivée du CD, qui a été une invention extraordinaire, mais une invention qui remonte quand même aux années 70, il ne faut pas l'oublier. Et l'industrie musicale a vu arriver la dématérialisation de son support, c'est-à-dire l'arrêt des supports physiques comme le vinyle ou le CD, vers quelque chose de numérique, de purement numérique. On parle surtout de iTunes, mais iTunes n'a fait que démocratiser ce système qui existait déjà, certes illégalement. Il faut rendre hommage à ce pionnier qui était Napster, qui malgré le fait que c'était de la diffusion illégale de musique, a permis de révolutionner la musique en tant que telle, puisque au lieu d'écouter, d'aller acheter un CD aujourd'hui chez un disquaire, eh bien on pouvait l'obtenir sur Internet, et on peut l'obtenir sur Internet avec un clic, grâce au MP3. Bon, il y a différents formats de musique, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ce qu'on voit aujourd'hui arriver, ce n'est même plus iTunes Music Store. C'est ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire la location de musique. Je voulais d'ailleurs vous en parler depuis un petit moment, de Spotify par exemple. Spotify est l'un des plus gros joueurs dans le domaine du streaming. Vous payez moins de $10 par mois et vous avez accès à toute la bibliothèque de Spotify, et puis je peux vous dire qu'elle est extraordinairement grande. C'est impossible de tout écouter, mais vous avez de tout. Alors évidemment, $10 payés par mois, c'est des sommes qui vont être après redistribuées à l'industrie musicale. Et c'est là où le problème survient. Et on a vu cette semaine plusieurs articles dans la presse, surtout émanant de la DISC. Alors qu'est-ce que la DISC? Pour vous rappeler, c'est l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo. Il y a eu plusieurs articles, donc, entre autres dans Le Devoir, dans la presse, qui dénonçaient un peu la problématique du streaming. En gros, c'est on voit dans les articles, d'ailleurs, ils parlent de cri de l'alarme qui est lancé. On part d'un constat assez simple. Au Canada, ça c'est dans Le Devoir, les ventes de disques physiques ont baissé de 70% en 10 ans. Alors c'est sûr que aujourd'hui, les disquaires, d'abord il y en a de moins en moins. J'essayais de réfléchir d'ailleurs ces derniers jours à quand est-ce que j'ai, la dernière fois que j'ai acheté un CD pour moi, pour mon plaisir à moi. Pas pour l'offrir à mes parents, par exemple, parce qu'il m'arrive d'acheter un CD ou des CD pour mes parents, parce que je sais très bien que eux autres, le MP3, iTunes, c'est ils vont sur Internet, mais ça se limite à des courriels et puis à la navigation sur leur navigateur, leur furteur. Mais de là à écouter des MP3, on va un peu trop loin. Mais à part ça, je ne me souviens vraiment plus quand est-ce que j'ai acheté un CD pour moi. En fait, si, je viens de me rappeler. En fait, c'était un CD promotionnel. Donc, ça avait rien de. C'était plus pour aider un artiste qui donnait un petit spectacle, et puis il vendait ses CD, et puis vu qu'il était là, bon, ben, je l'ai acheté. Et je pense qu'il est encore emballé à l'heure où on se parle. Donc, voilà ce qui se passe dans les CD, avec les CD. Et ce que j'ai fait il y a quelques années aussi, j'ai pris tous les CD que j'avais, tous les CD audio, je les ai tous numérisés, je les ai tous mis sur iTunes pour pouvoir les écouter n'importe où par la suite. Donc, quand on dit que les ventes de disques physiques ont baissé de 70% en 10 ans, oui, c'est tout à fait crédible. Alors, pour la disque, je cite l'article du Devoir, « Il est passé minuit moins une et le glas pourrait bien sonner d'une seconde à l'autre. Sans une aide étatique rapide, l'industrie québécoise de la musique se dirige droit au mur à cause des bouleversements provoqués par le phénomène de la lecture en continu en ligne. » Bref, c'est du streaming. Ce qui me met toujours en maudit quand je lis ce genre d'article, c'est, je le répète, le sans aide étatique rapide. Encore une fois, on veut absolument, quand une industrie est en difficulté, se reposer sur l'État, c'est-à-dire se reposer sur nous, les contribuables, les payeurs de taxes. La solution facile. Je le répète, je l'ai dit au début du sujet, c'est on parle d'industries qui ne se sont pas adaptées au progrès. Et ils ne se sont pas adaptés, ils ont échoué dans l'adaptation. Puis encore une fois, c'est aux contribuables de devoir payer leurs erreurs. Et je trouve ça lamentable. Hier, c'est les taxis qui n'ont pas réussi à s'adapter. Post Canada qui continue à faire son travail comme il le faisait dans les années 60. Puis aujourd'hui, on a des associations comme la DISC qui se plaignent que les clients, ou en tout cas les consommateurs, ne consomment plus comme eux voudraient que l'on consomme, comme eux, dans le fond, exigent presque que nous puissions consommer. C'est-à-dire acheter le plein prix pour un CD, pour pouvoir nourrir leurs membres, des producteurs, des gens qui n'ont... Qui ne sont plus nécessairement nécessaires, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, quand on passe d'un produit physique à un produit numérique, c'est-à-dire dématérialisé, il y a peut-être beaucoup d'intermédiaires qu'il y avait par le passé dans l'industrie de la musique. Tu sais, avant, évidemment, il y a un groupe de musique, par exemple, il y a des musiciens, il y a des ingénieurs du son, il y a un studio qu'il faut louer, après, il y a tout un travail de marketing, il faut faire la pochette du disque, il y a un distributeur, un diffuseur, des producteurs. Et tout ce monde-là est encore nécessaire. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui, par exemple, de payer des gens qui vont faire le tour des radios pour faire de la promotion, qui vont dire « S'il te plaît, passe une toune de cet artiste, tu vas adorer », qui vont faire des publicités à droite et à gauche. Aujourd'hui, les suggestions de musique se font tout à fait simplement et automatiquement quand vous écoutez Spotify ou iTunes. Si l'artiste est bon, ils vont être mis en... sous le projecteur, et il va être connu comme ça. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a des différents réseaux sociaux où des artistes réussissent parce qu'ils font preuve d'originalité. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de Bob Bissonnette, qui s'était tué en hélicoptère. Malgré on met de côté l'accident tragique, Bob Bissonnette, là, il a pas eu besoin de la disque. Il n'a pas eu besoin de subventions. Il a fait quelque chose d'original. Il a monté une... C'était, tu sais, c'est un gars qui buvait de la bière sur scène, qui faisait le cave un peu partout, qui était toujours drôle, qui avait toujours un gros sourire. Mais c'était un businessman, ce gars-là. Lui, il a monté sa compagnie. Il a fait faire des produits dérivés, des t-shirts, des verres, des casquettes, etc. Il a monté des spectacles, il faisait partie de fêtes à droite et à gauche. Ce gars-là était super actif aussi sur les réseaux sociaux et il s'est fait connaître d'eux-mêmes. Il n'a pas eu besoin d'argent des contribuables ou d'argent de la disque. Il a réussi comme ça. Si ça fait partie de cette transformation que le monde musical a besoin. Les gens ont besoin de se créer un business. Grâce, entre autres, aux réseaux sociaux. C'est là que leur public se trouve. Pourquoi continuer à nourrir grassement des associations comme la DISC qui font une fois par année un gala que de moins en moins de monde regarde, qui ne représente de moins en moins, dans le fond, les artistes? Ceux qui vivent sans subvention ne sont pas là, ceux qui font pas partie de la disque sont pas là. C'est un gala qui devient de plus en plus une auto-congratulation en règle entre artistes de la gang, hein, entre dans le même clan, on se fait des sourires, on s'applaudit entre nous, mais en fait ça reste tous des compétiteurs. Et le problème là-dessus, c'est que, comme je le disais, encore une fois, ces gens-là ne se sont pas remis en question. Et encore une fois, c'est le contribuable qui va devoir payer. Alors, la DISC nous dit, toujours dans Le Devoir, la DISC convoquera la presse le 29 septembre pour présenter différentes demandes urgentes adressées au gouvernement québécois. Sans entrer dans les détails, Madame Drouin, qui représente la DISC, parle de solutions fiscales, législatives et réglementaires. De solutions fiscales. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir entre les lignes quelles seront les demandes de la DISC. Il y a quelques années, la DISC voulait taxer les ventes d'iPod pour pouvoir récupérer de l'argent grâce à ça. Aujourd'hui, il n'y a Les ventes d'iPod sont en chute libre. Tout le monde a l'équivalent d'un iPod sur son téléphone intelligent, que ce soit Samsung, Apple ou même BlackBerry. Je suis sûr que vous pouvez écouter sans problème de la musique là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont demander ? En lisant entre les lignes, on voit qu'il y a toujours des demandes de taxes par rapport, cette fois, au téléphone intelligent, par rapport aux supports physiques comme les disques durs. Et puis aussi, la disque va demander à taxer les compagnies Internet comme Vidéotron ou Bell, parce que dans le fond, ce qu'ils voient, c'est que les gens qui utilisent Spotify utilisent la bande passante de leur compagnie de distribution comme Bell, Vidéotron, Rogers, et la disque voudrait avoir une partie du gâteau. Sauf que le problème que j'ai avec ça, c'est que on n'écoute pas forcément des artistes québécois. On n'écoute pas forcément des membres de la disque quand on écoute Spotify. J'en écoute. Je pense qu'on est beaucoup à écouter la musique québécoise et à apprécier la musique québécoise, mais ça ne représente pas la majorité de mon écoute personnellement. Quand j'écoute Spotify, c'est pour faire des découvertes, surtout des découvertes internationales, ou écouter de la musique que j'apprécie. En quoi, encore une fois, la disque, par l'intermédiaire de l'État, va aller piocher dans nos poches, alors qu'on est déjà les plus taxés en Amérique du Nord. Je continue l'article du Devoir. C'est que, ici comme ailleurs dans le monde, les données sont alarmantes. Après avoir délaissé les disques matériels, baisse de 70% en 10 ans au Canada, comme je le disais tantôt, pour profiter de l'offre numérique légale, vente d'albums ou de pistes, les consommateurs se détournent de ce modèle pour adapter à un rythme effréné, celui du streaming. Ben, elle est là, la réponse. Ils le disent eux-mêmes, les consommateurs se détournent de ce modèle pour adopter à un rythme effréné, celui du streaming. Les consommateurs changent leurs habitudes. Pourquoi l'industrie musicale du Québec n'a pas profité de cela pour aussi changer leurs habitudes ? Maintenant, vous comprenez, il faut que la gang, vous savez, ces gens qui parlent entre eux, qui interagissent entre eux dans des galas, ils doivent garder leur job. C'est bien important que tous les niveaux de diffusion de la musique puissent garder leur job, garder leur fonction. Et vu que ça ne marche plus, bien, vu qu'ils ne font plus rentrer d'argent, eh bien, l'argent il va venir artificiellement de la part des contribuables. C'est ça qui est scandaleux. Le monde change, c'est à vous de changer. C'est pas aux consommateurs, c'est pas aux contribuables de payer pour vos erreurs. Encore une fois, c'est le même débat qu'on a eu avec le taxi. Encore une fois, c'est le même débat que l'on a eu avec Post Canada et qu'on va avoir avec d'autres industries. S'il y avait eu des réels efforts, je parlais des taxis par exemple. Si, mettons, il y a, avec l'arrivée des téléphones intelligents, mettons 4 ou 5 ans, s'ils avaient commencé, si les taxis s'étaient regroupés pour faire une application des taxis du Québec, des taxis de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, qu'importe, pour qu'on puisse, par exemple, commander, depuis le téléphone intelligent, un taxi, savoir quand est-ce qu'il allait arriver exactement, qui allait être notre chauffeur, et, comble du luxe, si nous pouvions directement payer à travers l'application. S'il y avait eu des essais de ce genre-là, mais que Uber serait arrivé et que Uber, dans le fond, aurait pris tout le marché. Là, j'aurais pu dire, OK, ils ont essayé. Les taxis ont essayé de développer quelque chose, ça n'a pas fonctionné. C'est bien dommage, mais j'aurais au moins salué l'effort. Mais là, que ce soit les taxis ou l'industrie musicale, il y a zéro effort. Qu'est-ce qu'a fait la disque ? Qu'est-ce qu'a fait l'industrie musicale pour s'adapter ? Il y a Vidéotron qui avait lancé une sorte de pseudo-copie de iTunes qui s'appelait Zik il y a quelques années. Ça n'a pas fonctionné. Mais quand vous copiez quelque chose d'aussi gros qu'iTunes, essayez de faire quelque chose de, d'original. Pas une sorte de copier-coller que, en plus, je me souviens, au début de Zik, ça marchait pas avec tous les navigateurs ou tous les ordinateurs. Je me souviens, par exemple, moi je suis sur Mac, par exemple, j'avais essayé d'aller sur Zik, je me dis, bon, je vais aller écouter de la musique québécoise et en acheter, pourquoi pas, c'est autant essayer de voir ce qu'ils proposent. J'étais incapable de faire quoi que ce soit, c'était pas compatible avec Mac. Ça peut pas marcher de même. Mais c'est pas trop tard. C'est aux producteurs, c'est à l'industrie musicale dans son entier de trouver des façons originales de récupérer des revenus. Encore une fois, les plus beaux exemples de réussite, on les voit chez des artistes qui ne sont pas subventionnés, qui n'attendent pas l'aide de personne, qui sont des véritables entrepreneurs, mais dans le fond, comme dans n'importe quelle industrie. C'est un peu comme quand, si vous décidez d'ouvrir un restaurant. Restaurant marche pas, vous allez faire quoi? Vous allez dire que c'est de la faute du McDonald's qui s'est ouvert à deux coins de rue? Il faut arrêter, c'est de la compétition. C'est quelque chose de sain, ça nous aide à être meilleurs et ça nous aide à proposer des produits encore meilleurs pour le client, pour le consommateur final. À l'industrie musicale, de réfléchir, nous sommes au Québec des gens créatifs, avec plein de bonnes idées, on va s'asseoir, on va réfléchir, puis on va trouver des idées originales qui nous permettront peut-être pas nécessairement de revenir à des revenus aussi gros qu'il y a deux ou trois décennies, mais qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau et de proposer quelque chose d'original et pourquoi pas être copié ailleurs. Mais non, on choisit la simplicité. On choisit la facilité, aller encore une fois chercher l'argent dans la poche du contribuable. Je trouve ça lamentable. Vous l'attendiez tous, voici maintenant le segment consacré à la course à la chefferie du Parti québécois. Eh oui, il est temps de parler du PQ. Ce qui s'y passe est quand même assez incroyable. Je me souviens cet été, des gens du Parti québécois reprochaient aux médias de ne pas assez parler de la course durant la période estivale. Entre nous, soit dit, durant l'été, on n'a pas envie nécessairement de parler politique. Aujourd'hui, ils doivent regretter leurs paroles, parce que dans le fond, ils souhaiteraient peut-être qu'on parle un peu moins du Parti québécois, tellement il y a de chicanes, tellement c'est n'importe quoi, ça va dans tous les sens. La semaine dernière, on en a parlé, Jean-François Lisée, son dérapage dans le fond, quand il a comparé Alexandre Cloutier avec Adil Sherkaoui. Adil Sherkaoui, d'ailleurs, qui était mort de rire, qui a fait une vidéo. Il a profité de l'opportunité qui lui était donnée, dans le fond, de rajouter au bordel ambiant au Parti québécois. Il a donc fait une vidéo dans laquelle lui dit que Alexandre Cloutier, c'est effectivement pas le candidat le pire au Parti québécois, et qu'il a même dans son entourage des musulmans, des conseillers à la limite proches d'Adil Sherkaoui, d'après ce qu'il dit. Mais tu sais, Adil Sherkaoui, il continue à dire n'importe quoi. C'est pas ça qui est important. Lui, je vous le dis, il se marre. Et ça a créé d'ailleurs tout un émoi encore au sein du PQ. Et un sondage d'ailleurs a été révélé la semaine dernière qui montrait que Cloutier et Lisée, la distance qui se séparait des deux hommes était de plus en plus faible. Donc est-ce que c'est parce que le phénomène Sherkaoui est entré en ligne de compte? C'est difficile à dire aujourd'hui. C'est dans une course à la chefferie, que ça soit dans n'importe quelle élection d'ailleurs, il y a toujours un moment donné, plus on se rapproche de l'élection, plus les courbes se rapprochent. Ça a toujours été le même. C'est rare de voir quelqu'un gagner une élection avec 60% des voix. C'est quelque chose qui est très très rare et qui mérite presque d'ailleurs beaucoup plus d'attention lorsque les résultats sont parus. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Ça prouve aussi une certaine pauvreté dans le débat aujourd'hui dans le débat qu'il y a actuellement au Parti québécois. Je vous ai parlé il y a quelque temps de Martine Ouellette et de ses idées pour le moins très originales pour redresser le Québec. Alexandre Cloutier, Jean-François Lisée. Jean-François Lisée qui, j'ai dû vous le dire aussi, qui me surprend, qui est moins condescendant que... je pense qu'il a, lui, il doit avoir de bons conseillers. Martine Ouellette, d'ailleurs, je vais vous faire part d'une chronique de Jonathan Trudeau dans le Journal de Québec qui est très très bonne. Ça s'appelle « Les malheurs de Martine ». Jonathan Trudeau, qui est analyste politique, est un ancien conseiller de Jean Charest et qui travaille maintenant dans les médias, à LCN, à Radio X, à Québec, et qui a fait une belle chronique qui dépeint un peu la situation par rapport à Martine Ouellette. Martine Ouellette, là, c'est l'éternelle victime. Elle est victime, c'est une victime. Il y a quelques semaines de ça, même quelques mois de ça, quand la course à chefferie a commencé, elle nous a dit que dans le fond, l'establishment du Parti québécois s'oppose à elle. Tu sais, dans la tête de Martine Ouellette, il y aurait comme un groupe au sein du Parti québécois qui ferait tout pour qu'elle ne soit pas élue chef du Parti québécois. Ensuite, elle dit que cet establishment qui est contre elle favorise Alexandre Cloutier. Elle dit que ses collègues députés osent la huer lors d'un débat entre elle, Jean-François Lisée et Alexandre Cloutier. Elle l'a dit, les premiers rangs m'ont hué et je sais qui était au premier rang, c'était les députés du Parti québécois. Ambiance dans le caucus du Parti québécois, vous imaginez ? Elle critique ses collègues et puis après, elle reproche à ses mêmes collègues de ne pas la soutenir. En passant, vous savez combien de députés du Parti québécois soutiennent Martine Ouellette ? Zéro. Il n'y a pas un seul député du Parti québécois qui soutient Martine Ouellette. Là, aux dernières nouvelles, cette semaine, la semaine dernière plutôt, le PQ n'a pas inclus Martine Ouellette dans une vidéo de promotion du Parti québécois. Là aussi, ça a été tout... c'était presque comique. Les journalistes, enfin les médias, quand ils ont vu la vidéo du Parti québécois, il y avait là-dedans tous les députés du Parti québécois, il y avait Alexandre Cloutier, évidemment, il y avait Jean-François Lisée, mais pas Martine Ouellette. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent le bureau de Martine Ouellette, et puis le conseiller en communication de Martine Ouellette répond « Ah, oui, on a vu ça, le Parti québécois ne voulait pas qu'elle soit dans le vidéo ». Waouh, ça c'est toute une déclaration. Dans le fond, le Parti québécois fait tout pour virer Martine Ouellette. Mais en fait, en cherchant un peu plus loin et puis en faisant les vérifications d'usage, on découvre que Martine Ouellette, c'est pas Martine Ouellette qui a été exclue de la vidéo, c'est elle qui a refusé de participer à la vidéo. Et quand on l'interroge, elle nous dit que c'était pas clair ce qu'il fallait dire. Tu sais, je pense qu'ils ont dit quelque chose, je soutiens ou je suis Parti québécois ou quelque chose de même. Et puis, apparemment, elle voulait dire je suis indépendantiste, tu sais, dans le vidéo, au lieu de dire je suis Parti québécois. Ouais, c'est spécial. Hein. Ça continue. François Gendron, le doyen plutôt de l'Assemblée nationale, avait été interrogé d'ailleurs au sujet de Martine Ouellette. Et puis François Gendron, là je lis la chronique de Jonathan Trudeau, François Gendron qui s'est fait demander la semaine dernière si sa collègue était bonne pour travailler en équipe, réponse « Martine est très travaillante, oh boy ». Tu sais, on demande par exemple si t'es bon pour travailler en équipe à des collègues et puis tes collègues répondent « il est ou elle est travaillante ». C'est tout un message. Hein. c'est tout un message. Donc, ça continue au Parti québécois. C'est la chicane perpétuelle. Ça a toujours été le même. Puis ça, ça se rajoute à la pile des chicanes péquistes qui font en sorte que, dans le fond, il y a eu tellement de chefs et il y a tellement peu de stabilité dans ce parti politique. Il y a de moins en moins d'électeurs du Parti québécois. Ils s'en vont soit à la CAQ, soit à Québec solidaire, soit encore dans l'abstention. Et puis, ensuite, ils vont nous faire croire que c'est parce qu'on parle pas assez d'indépendance. Non, le parti, c'est un parti de chicane. C'est un parti où tout le monde se plante des couteaux dans le dos. Ça donne, tu sais, quand on voit un parti agir de même, on se demande si ce parti est assez mûr, est assez mature pour être au gouvernement. Puis c'est vrai, les péquistes n'arrêtent pas de nous le dire, les libéraux ont été au pouvoir quasiment tout le temps entre 2003 et aujourd'hui. À part le clignement d'œil là, du gouvernement de ma tante Pauline, c'est vrai, les libéraux, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont au pouvoir au Québec. Mais c'est pas à cause du Parti libéral. Regardez toutes les erreurs du Parti libéral. Jean Charest, qui était complètement noyé par les scandales. Il y avait des manifestations quasiment toutes les semaines dans les rues de Montréal et ailleurs, avec des casseroles, avec les carrés rouges, qui nous ont vraiment emmerdés, excusez-moi le terme, pendant tout un printemps, qui étaient pris dans des scandales à n'en plus finir. Ma tante Pauline, qui malgré ça, n'a même pas réussi à être élue avec une majorité, qui était obligé de provoquer des élections 18 mois plus tard, et c'est les libéraux qui sont rentrés majoritaires. Mais c'est de la faute des médias, c'est de la faute de tout le monde. On parle pas assez indépendance. Quand on voit l'état du Parti québécois, ça donne vraiment pas envie. On a envie d'aller ailleurs. Mais non, on ne parle pas assez d'indépendance, c'est bien important. Indépendance maintenant, au premier mandat, au deuxième mandat, quand le temps sera venu, quand on regarde les sondages, les Québécois ne sont pas là, ne sont plus là. Ce qu'ils veulent, c'est une meilleure gestion. Ce qu'ils veulent, c'est payer moins d'impôts, moins de taxes. L'indépendance, là, on verra ça plus tard. Après la politique provinciale, on va faire un tour du côté de la politique fédérale. Je vous l'ai dit au sommaire, d'ailleurs, on va parler un peu des premiers mois de Justin Trudeau. Et puis, j'avoue que je ne suis pas un grand lecteur du Huffington Post, vous devez le deviner, mais il y a parfois quand même de bons articles. Et il y a un article qui a suscité mon intérêt, d'ailleurs, la semaine dernière. L'article, c'est sur les premiers mois du gouvernement Trudeau qui auraient été les moins productifs depuis des décennies. Alors, je lis l'article, le début de l'article. En tout cas, les premiers mois du Premier ministre Justin Trudeau au pouvoir ont été les moins productifs de tout gouvernement à la Chambre des communes en plus de deux décennies, selon les données compilées par la Bibliothèque du Parlement. Donc, on ne parle pas des méchants conservateurs ou du NPD. On parle de sources officielles et de sources fiables. Le Parlement a adopté 10 projets de loi lors des 9 premiers mois de M. Trudeau en fonction. Donc, en résumé, il y a à peu près un projet de loi par mois qui a été adopté au Parlement. Donc, c'est les données publiques qui révèlent cela. Lors des 9 premiers mois consécutifs à leur victoire majoritaire en 2011, les conservateurs auraient promulgué 18 législations, incluant 9 projets de loi dans les 23 premiers jours. Donc les conservateurs ont pratiquement fait, adopté autant de projets de loi en 23 jours que les libéraux en 9 mois. Pour un gouvernement qui parle vraiment de réels changements et d'ambitions élevées, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ils n'ont pas fait grand-chose, dans le fond, a affirmé le député conservateur Erin O'Toole au Huffington Post Canada. Et c'est vrai, on voit beaucoup Justin Trudeau, là, on le voit beaucoup dans les médias, on le voit beaucoup en train de faire des selfies, on le voit beaucoup avec des vedettes, on l'a vu avec Bono d'ailleurs il y a quelques jours de ça. Mais par contre, on dirait qu'il n'est pas vraiment intéressé par la gouvernance. On a, pendant la campagne fédérale, la campagne électorale, on l'a vu vilipender les conservateurs, les attaquer vraiment directement en leur disant que, dans le fond, par exemple, les cibles climatiques pour le réchauffement, pour les changements climatiques n'étaient pas assez contraignantes, n'étaient pas assez grandes, imposantes pour Justin Trudeau. Alors que la première chose, une des premières choses qu'il fait, c'est de dire devant dans les sommets sur le climat, de dire que dans le fond, le plan canadien est suffisant et qu'il va rester, il va respecter les cibles qui sont fixées par le Canada. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il ne change pas les cibles qui avaient été décidées par le gouvernement conservateur, alors qu'il les trouvait déjà peu ambitieuses. C'est quand même incroyable. Mais alors, est-ce que les médias challengent Justin Trudeau à ce niveau-là? Absolument pas. C'est pas Radio-Canada qui va recevoir un gros chèque du gouvernement qui va challenger Justin Trudeau, qui va lui dire, mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des selfies, vous serrez la main à Bono, vous allez en bedaine faire de la pêche, je ne sais plus trop où. Mais quand on parle de véritables sujets, des préoccupations qui, semble-t-il, étaient très importantes pour vous pendant les élections fédérales, il n'y a personne. Les cibles canadiennes pour le réchauffement climatique seront les mêmes que sous les conservateurs. Bon, mais il n'y a pas un média qui le révèle. Continue l'article. Même à la tête d'un gouvernement minoritaire, Stephen Harper s'est révélé plus prolifique aux communes que l'actuel gouvernement libéral. Il avait en effet adopté 14 projets de loi en 2006 et 26 en 2009, après qu'il eût prorogué le Parlement afin d'éviter un vote de confiance. Mais le gouvernement libéral, Justin Trudeau, qui voulait tellement de changements au Canada, nous dit dans le fond, il y a 9 projets de loi, 10 projets de loi en 9 mois, c'est suffisant dans le fond pour changer le Canada. Autre chose, là on va parler de dépenses. Un statut Facebook d'Éric Duhaime, très intéressant d'ailleurs, qui nous dit que Justin Trudeau est en train de complètement l'échapper au niveau des dépenses. Là il nous dit qu'il y a eu $220 000 pour le déménagement de 2 employés du Premier ministre. Pensez-y, là. On parle d'un déménagement. C'est en moyenne donc $110 000 pour le coût d'un déménagement. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de déménagements dans vos villes. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Ça coûte même pas la moitié, même pas. Ça coûte pas ça, un déménagement. Je comprends. On ne parle pas nécessairement uniquement du déménagement des affaires des conseillers de Trudeau. Il y a peut-être eu également des rénovations, il y a peut-être eu l'adaptation de bureaux là-dedans. T'sais, on parle d'un chiffre brut et des fois, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais quand même, le gouvernement devrait être là pour montrer l'exemple. On est dans une période difficile. On sait que côté de la dépense publique, le gouvernement s'est engagé à dépenser pas mal plus que sous les conservateurs. C'est leur choix. Les Canadiens ont voté pour ça. A priori, ils le savaient. Mais n'est-ce pas justement le moment de faire attention ? Quand on est une famille, mettons, qu'on décide de déménager, on change de ville, par exemple, et qu'on sait qu'on va être serré, qu'on a beaucoup de dépenses de prévues cette année. Il y a notre vieux bazou tout rouillé qu'on doit changer. On sait qu'on doit faire une dépense importante pour une nouvelle voiture. On met de l'argent de côté. Quand on déménage, ben là, il faut faire des choix. La peinture jaunie dans le salon, on peut encore la toffer 1 ou 2 ans. La cuisine, on sait qu'une cuisine, hein, c'est cher, c'est mauditement cher. Mais plutôt que de la changer parce qu'elle n'est pas à notre goût, ouais, on va mettre un peu de vernis. On va pouvoir la toffer encore. Pendant ce temps-là, on va mettre un peu d'argent de côté. On ne va pas dépenser pour 110 000 $. Voyons, qui dépense 110 000 $ pour déménager? On continue dans les dépenses. La ministre Catherine McKenna, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines, dépense 17 000 $ pour des photos sur Twitter. Catherine McKenna s'était déplacée, souvenez-vous, à Paris, et il y a eu des dépenses incroyables pour des lunchs, des photos également. Elle avait demandé à un photographe français de prendre des photos d'elle pour les réseaux sociaux. 17 000 $! La ministre Jody Winson-Renbould dépense 13 322 $ pour des chambres d'hôtel. Une équipe de 7 fonctionnaires travaille pour produire les vidéos YouTube de Justin Trudeau, soit une dépense de 127 125 $. Ça coûte cher la popularité. Ça coûte cher les selfies. 127 000 $. Une équipe de 7 fonctionnaires. Sérieusement, là. Je pense qu'il serait temps pour Justin Trudeau de demander conseil à des vlogueurs, à des vedettes canadiennes, mettons, sur YouTube, et leur dire « Comment vous faites? Comment vous travaillez? » Moi, je vous garantis qu'avec même un téléphone intelligent, un micro papier, micro à 50 $, micro cravate, 50 $, puis des logiciels vidéo gratuits déjà disponibles sur le commerce, moi, je suis sûr qu'on peut même pas diviser par 2, mais diviser par 10 minimum cette dépense. Je comprends, quand on voit les vidéos du maire de Québec, Régis Labeaume, qui a un son épouvantable, mais des petits changements, puis la vidéo sera impeccable. 127 000 $ pour des vidéos sur YouTube, pensez-y. On continue. La ministre Jane Philpott, dépense 8 000 $ pour des déplacements en limousine et les salons VIP dans les aéroports. Moi, je serais gêné. C'est un exemple que je cite régulièrement, mais savez-vous que les ministres en Norvège utilisent leur propre voiture? Non, pas de chauffeur. Vous allez en Norvège, mettons, le ministre de l'Éducation se balade dans son propre véhicule. Et nous autres, on a des ministres qui se déplacent en limousine et qui utilisent les salons VIP dans les aéroports. Encore une fois, c'est l'exemple. Montrez l'exemple. Le ministre Jim Carr dépense 1784 $ pour des billets de hockey et une promenade en limousine sur une distance de 5 coins de rue. Pendant l'été, les libéraux ont fait 1447 annonces pour aider des dépenses totales record de 7,8 milliards de dollars. Ça fait partie des promesses électorales de Trudeau. Ça fait partie des cadeaux aux amis du Parti libéral. 7,8 milliards dépensés. Ça fesse. C'est sûr que vous pourrez toujours dire « Ah, 8 000 $ pour utiliser les salons VIP d'un aéroport, tous les ministres l'ont fait. » Ou vous allez pouvoir trouver des ministres conservateurs qui l'ont fait, puis d'autres ministres libéraux sous Jean Chrétien qui l'avaient fait également. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas parce que d'autres l'ont fait que c'est bien. Ça serait un ministre conservateur, je serais exactement en train de dire la même chose. Ce n'est pas le temps de dépenser, c'est le temps de montrer l'exemple et d'agir en gouvernement responsable. un, il se passe rien. Puis de deux, le peu qui est fait, c'est des dépenses monstrueuses. Mais qui va payer ? Encore une fois, qui va payer ? Posons-nous la question. Bien, 45 minutes de podcast à date. J'ai fait le tour des sujets sérieux, des sujets politiques, peut-être des sujets plates pour certains d'entre vous. Ça va donner donc l'occasion de parler un peu d'autre chose. Je vais vous parler d'abord d'une première télésérie que je suis en train de regarder. Je ne l'ai même pas encore terminée, qui a été diffusée à partir du mois de mai sur la chaîne américaine AMC. AMC, c'est ceux qui diffusent l'excellente télésérie The Walking Dead. La télésérie donc dont je veux vous parler, ça s'appelle Feed the Beast. Feed the Beast, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Tommy et Diane, qui sont deux chums, qui décident d'ouvrir à New York un restaurant grec. D'inspiration grecque, sauf que Dion est pas mal pris entre deux feux, puisqu'il doit des comptes à la pègre, il a fait de la prison, enfin il a tas de problèmes. L'un des acteurs, c'est David Schwimmer. David Schwimmer, si vous vous souvenez pas, c'est lui qui jouait Ross dans la télésérie Friends, et dont je vous avais aussi parlé il y a quelques temps de ça, dans l'excellente télésérie concernant O.J. Simpson. Je vous ai parlé il y a quelques semaines, et d'ailleurs qui a reçu quelques Emmy Awards, donc il y a à peu près une semaine de cela. Pour vous dire, je vous l'avais dit, hein, c'est une excellente télésérie que je vous conseille encore si vous l'avez pas encore regardée. Feed the Beast, c'est assez bon. J'ai pas encore terminé la télésérie, mais c'est vraiment bon. C'est effectivement pas mal de un côté culinaire. On parle de bouffe, pas mal. Mais il y a aussi, vu que le restaurant, ils essayent de l'ouvrir dans le quartier du Bronx, c'est pas facile, hein, vous vous en doutez. Donc il y a, comme je vous disais tantôt, il y a la pègre polonaise. Disons que Diane, quand il a été mis en prison, c'était entre autres pour avoir mis le feu à son restaurant, et le restaurant appartenait donc au chef de la pègre. Donc lui, il est pas content parce qu'il y a pas mal de son argent, de son investissement qui est parti en fumée. Donc voilà, très très bonne télésérie à voir si vous avez un peu de temps. Malheureusement, j'ai vu que EMC avait décidé d'arrêter au bout d'une saison. Ça arrive aux meilleures téléséries parfois. Je vais vous parler d'une autre télésérie d'une seule saison. Je vais vous parler de la télésérie The Family. C'est l'histoire... Ah, je vous allez être surpris là, c'est l'histoire d'une famille, figurez-vous. C'est effectivement l'histoire d'une famille qui vit en Nouvelle-Angleterre, qui perd un de ses enfants. Ils sont dans une fête, une kermesse, qu'importe. La mère se présente pour devenir mairesse de la ville, donc, et puis distribue ses pamphlets, aidée de ses enfants, du père également, et puis tout d'un coup, il y a un des enfants qui disparaît. Tout de suite, on pense effectivement à l'enlèvement, surtout que différents témoignages nous disent que l'enfant jasait avec un des commerçants qui vendait des petits meubles gossés dans le bois, comme ça, lors de la kermesse. Un pédophile qui vit en face de leur maison est arrêté. Et puis il est accusé et condamné pour le meurtre de l'enfant, malgré le fait qu'on n'a pas retrouvé le corps du jeune adolescent qui, si ma mémoire est bonne, dans la télésérie, était âgé de 9 ans au moment de sa disparition. Bon, le temps se passe. 10 ans après, arrive dans un commissariat de la ville, un enfant donc plutôt adolescent, genre 19 ans, qui voit une des petites affiches de disparition d'enfants, vous voyez, hein, avec la photo, avec le nom, puis avec un numéro de téléphone. Et puis, lorsqu'un policier s'approche de lui pour lui demander s'il est perdu, s'il cherche quelque chose, il pointe du doigt la photo et dit « c'est moi là, sur la photo ». Alors effectivement, les parents sont appelés, voient leur enfant qui a beaucoup changé. Passer de 9 ans à 19 ans, c'est certain que les enfants changent énormément en ce temps-là. Et bien, ils veulent y croire, c'est leur enfant, c'est génial. Ils le ramènent à la maison après avoir subi les examens d'usage, les examens médicaux d'usage. Évidemment, la personne qui était emprisonnée est libérée, puisque qu'elle ne pouvait pas avoir commis ce crime, puisque l'enfant dit que, dans le fond, il voyait son agresseur quasiment tous les jours, lui apporter de la nourriture, et donc veiller sur lui, si on peut dire. C'est là que ça devient intéressant, c'est que plus l'histoire avance, plus on se demande si c'est vraiment leur fils. Ça reste mystérieux. Il y a des choses qui sont bizarres. Il y a certains éléments qui montrent que, dans le fond, est-ce vraiment leur enfant ou est-ce un autre enfant? Mais en même temps, il a été enfermé dans un trou pendant 10 ans, sans contact avec personne d'autre. Plus tard, on apprend qu'il y avait un autre enfant avec lui dans la cache. Qui est-il? D'où venait-il? Télésérie intéressante, puis qui s'est arrêtée au bout d'une saison, mais je vous dis, ça se regarde bien la saison en entier, parce que parfois, quand il y a des séries qui sont annulées, ce qui se passe, c'est que le dernier épisode nous apprend rien, et que ça finit un peu en queue de poisson, et puis qu'on est un peu frustré, parce qu'on n'a pas, dans le fond, une fin correcte. Là, a priori, ils devaient savoir que la télésérie allait s'arrêter, ou qu'ils ont prévu une fin alternative. Si tant bien que ça se regarde bien, c'est une bonne télésérie, très bons acteurs, et puis un mystère. On essaye on participe un peu dans le fond à l'intrigue. On essaye de voir dans le fond est-ce qu'il est vraiment qui y prétend, ou quelle est la part du mystère et du mensonge là-dedans. Et puis il y a des non-dits, il y a du mensonge également chez les autres membres de la famille. Donc intéressant à voir si vous aimez le mystère. Pas beaucoup d'action là-dedans, mais une belle histoire, un beau scénario. C'est ainsi que s'achève le 13e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à le faire. Eh bien, comme toutes les semaines, je vous rappelle les façons de me contacter. Vous pouvez le faire d'abord par courriel à l'adresse radioblog@québecpresse.com, radioblog@québecpresse.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse QC Presse. Il y a effectivement la page Facebook de Québec Presse sur laquelle vous pouvez me laisser vos messages privés. J'essaie de répondre à chacun le plus rapidement possible, du moment que c'est fait dans le respect. On se laisse en musique avec le groupe Beck. La tune s'appelle Dreams. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Radioblog de Québec Presse. Bonne semaine à tous. À la prochaine.
Circles around.